Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, deuxième cassette, deuxième face, page 64. Le 20 juillet, trois jours après l'incendie de forêt, le lac de Kantishna rejeta sa croûte de glace. Le lendemain, John arriva avec le Junker pour commencer le transport du minerai. Il était déjà venu une fois au milieu de juin avec son oncle et avait atterri sur la glace avec le Piper Cub. Il connaissait donc le terrain et le vieux Nels Swanberg. Tous deux avaient leurs caprices et leurs petites originalités. Méfie-toi, n'approche pas trop des glaciers et des précipices comme tu es chargé, lui avait dit son oncle, car les vents te plaqueraient au sol. À certains endroits, il s'établit un tirage comme dans une cheminée. Tiens-toi à distance de la montagne. Mais aujourd'hui, le temps était superbe. John était tout heureux en s'approchant de la longue rangée de sommets pointus qui étincelaient au soleil, ainsi que les glaciers d'un blanc nacré qui s'écoulaient le long des pentes escarpées. Denali, aujourd'hui, méritait vraiment son nom indien. Quand John amerrit sur le lac à proximité de la mine, il resta perplexe. Le jour où il était venu avec son oncle, une couche de neige recouvrait la glace, de sorte qu'il n'avait pas aperçu la petite langue de terre qui sépare les deux lacs. Il comprit soudain la difficulté qu'il aurait, fortement chargé, à décoller sur un seul des deux lacs. Pour peu que le vent fût défavorable, ce serait impossible. Il communiqua son appréhension à Nels Swanberg, qui descendait de la mine, croulant presque sous la charge de sa brouette. Le vieux sourit, et son beau visage tanné et osseux découvrit une multitude de petites rides. Presque un aviateur de brousse se soucie de ce genre de petites difficultés. On a déjà décollé d'ici avec le même Junker chargé de minerais. C'était ton oncle qui pilotait, il y a 2 ans de cela. C'était un jour de calme plat. Les grands oiseaux du lac ne sentaient pas assez d'air sous leurs ailes pour s'envoler. Mais ton oncle, lui, y est arrivé, et même 2 fois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si ce n'était pas moi qui me le disais, Nels, je ne le croirais pas. Aucun des deux lacs n'est assez long pour qu'on puisse décoller, fortement chargé surtout. Je refuse de te croire. Mais qui t'a dit qu'il ne se servait que d'un lac? Pas moi, en tout cas, car il y a 2 lacs. Mais l'isthme, Nel, l'isthme. Plusieurs mètres de terre les séparent, les 2 lacs. Tu ne l'as pas remarqué? Nels Swanberg grommela. Mais n'essaie pas de faire le malin. Ces quelques mètres ne représentent pas un obstacle pour un pilote qui a un peu de cran. Ton oncle, lui, sautait par-dessus. Il sautait par-dessus. Ouais, ça n'a rien d'étonnant. Il mettait plein gaz pour partir et en approchant de la langue de terre, il tirait sur le manche de toutes ses forces. Le zinc faisait alors un bond juste ce qu'il fallait pour franchir l'obstacle. Puis il retombait de l'autre côté et ton oncle continuait en donnant plein gaz de nouveau. Il avait obtenu ainsi assez de vitesse pour décoller tout à fait avant d'être arrivé au bout du 2e lac. C'était juste, je le reconnais. Il faut y aller doucement quand on a 2000 kilos de minerai derrière la nuque. John gémit. Et tu veux que moi aussi je fasse l'acrobate? Et 30 fois? Si mon oncle m'avait averti, je n'aurais jamais accepté ce job. Ça peut marcher une fois, peut-être 2. Mais tôt ou tard, on rate le saut, et alors on vous sort de la cabine comme un fossile incrusté dans un bloc de minerai. Tu vas t'y habituer, John, répondit Nels. Il y a des difficultés pires que le décollage. Le col des pluies, par exemple. Il va falloir que tu grimpes jusqu'à près de 1700 mètres pour aller à Anchorage. Un Junker lourdement chargé a du mal à y arriver. Et ce col est si étroit qu'il est le lieu de rencontre de toutes les tempêtes. Garde tes récriminations pour ce passage-là. John soupira. 1700 mètres? Mais le col n'est qu'à 1400. Pourquoi me faut-il une marche de 300 mètres? C'est pas trop s'il y a des trous d'air, John. À l'extrême rigueur, 100 mètres peuvent suffire. Mais il y en a qui sont passés en frôlant la montagne et qui n'ont plus jamais eu l'occasion de s'en vanter ensuite. Quelle sombre histoire, marmonna John. Allez, chargeons le zinc. 2000 kilos, c'est beaucoup. Eh, faut prendre au moins ça, dit Nels. Et il installa quelques planches entre la brouette et le Junker. L'avion était posé près de la plage et de petites vagues clapotaient contre les flotteurs. À l'intérieur, il était tapissé de plaques protectrices et une cloison séparait la cabine du pilote de la cargaison. Ils chargèrent en silence. Les blocs tombaient dans l'appareil avec un bruit sourd. Le soleil était très chaud. John travaillait torse nu et son dos devenait rouge comme celui d'un Indien. L'avion chargé et John assis à la place du pilote, Nels passa la tête par la porte et dit « Une tournée suffit pour aujourd'hui. Comme tu seras en Corrège, sois chic. Va à la poste restante demander s'il y a une lettre pour moi, une lettre de Suède. J'en reçois une par an et le moment approche. Tu auras le temps de le faire pendant qu'on décharge et qu'on fait le plein. Tu me promets d'y penser ?» John sourit. « Une lettre d'amour ?» dit-il en clignant de l'œil. Nels sursauta. Son visage prit une expression tendue. « Oh, pardon, s'excusa John, je n'avais nullement l'intention de te blesser. Oui, j'irai à la poste pour toi, puis je ferai des provisions. Je serai de retour dans 6 ou 7 heures environ. Peu importe, il fait encore jour 24 heures sur 24. Salut !»« Salut !» marmonna Nels en reprenant le chemin de la mine d'un pas pesant. Un peu intrigué, John pensa au vieux, pendant que son avion approchait du côté est du lac. Pourquoi avait-il si mal pris l'allusion à une lettre d'amour? C'était qu'une plaisanterie, il devait pourtant le comprendre. Il avait peut-être gaffé. Cette lettre représentait sûrement quelque chose de très sérieux dans la vie de Nels. Il cessa d'y penser et prépara son décollage. Il fit chauffer les moteurs l'un après l'autre pour vérifier leur bon état de marche. Il tourna l'avion contre le vent, serra sa ceinture d'un cran, passa la langue sur ses lèvres et donna plein gaz en faisant gicler l'eau en gerbe blanche autour des flotteurs. Le Junker fonçait sur le lac, soulevant une longue traîne d'écume derrière lui. Le bruit assourdissant des moteurs s'amplifiait encore en se répercutant sur le flanc des montagnes. Nels Swanberg, à l'entrée de la mine, serrait les poings. Son visage était dur et tendu comme une arête de rocher. Ses lèvres remuaient nerveusement comme s'il avait murmuré « N'aie pas peur, John, n'aie pas peur !» John empoigna le manche si fort qu'il se fit mal aux mains. Des gouttes de sueur perlaient de tous ses pores. Il courbait le dos comme le jockey qui serre les genoux contre les flancs de son cheval. L'isthme, qui ressemblait à une ligne toute mince, approchait de plus en plus et grossissait à vue d'œil. Il se pencha encore un peu en avant, plissa les yeux comme une panthère prête à bondir et hop ! Il étreignit le manche et le tira vers lui. Le Junker se cabra, piaffa sur l'écume et sauta lourdement par-dessus l'obstacle. Il sembla battre timidement les ailes quand il toucha l'eau avec un plouf retentissant à une vingtaine de mètres de l'autre côté de la bande de terre. John respira. Le saut avait réussi. Il n'arrivait pas à comprendre comment l'avion et lui étaient indemnes après un contact aussi brutal. Il avait en effet entendu un bruit sourd venant du chargement au moment où l'avion retombait sur le second lac. La cloison avait tenu. La vitesse augmentait peu à peu. John sentait les flotteurs plus légers sur l'eau. Il devrait bientôt tirer de nouveau sur le manche. La rive ouest était encore à une distance respectable. Un petit essai, une légère tape sur le gouvernail d'altitude, et le Junker obéissait, quittait lentement l'eau après une dernière gifle à une vague indiscrète. L'avion volait, prenait de l'altitude. Son jeune pilote était le plus heureux des hommes. Il évita une grande montagne à l'ouest du lac. L'aile gauche plongeant légèrement, le chargement le rappela vite à l'ordre. Il fallait y aller doucement. Le grondement était impressionnant quand les blocs se mettaient à rouler. « Rappelle-toi qu'il ne faut pas prendre de virage trop brusque quand tu es chargé, » lui avait dit son oncle. « Si le minerai se déplace, tu risques de chavirer comme un bateau dans une tempête. Joseph Grumman s'y connaissait, lui. John déroula la carte. Une heure de vol encore jusqu'au col, et ensuite à peu près le même temps jusqu'à Anchorage. L'oncle avait coloré en rouge quelques lacs sur la carte. En cas d'atterrissage forcé, il devait les utiliser de préférence. En second lieu, il devait choisir ceux qui étaient marqués en vert. En troisième lieu, il valait mieux ne pas descendre du tout. L'altimètre indiquait environ 1000 mètres. Le lac était à 800. Le col des pluies, 600 mètres plus haut. Et si je commençais à monter tout de suite, pensa-t-il. La chaîne de montagne à l'est affichait un air de supériorité qui l'agaçait. Il tira le manche d'un cran et donna plus de soupe au moteur. L'aiguille du contour était au maximum. Il ne pouvait pas aller plus vite. Un paysage impressionnant se déroulait sous l'appareil. Des gorges menaçantes, des chutes d'eau bouillonnantes, des pentes couvertes de moraines, des chaos de roches géantes, des pics déchiquetés. Ce n'était pas précisément un terrain recommandé pour un atterrissage forcé. Les lacs se trouvaient plus à l'ouest. Le col des pluies apparut, entaille nette et profonde dans le mur du roc, comme si un géant s'était amusé à essayer sa hache. Le seuil du col ne devait avoir que 300 mètres de large. Il fallait voler droit. Il vira doucement dans la direction du couloir. Pas un nuage, partout un clair bleu ciel d'été. Mais l'altitude. L'aiguille de l'altimètre semblait rivée à la côte 1300. N'osant pas s'engager dans l'étroit passage, John vira vers l'ouest. Puis il grimpa en large cercle, s'élevant péniblement, mètre par mètre, et il mit 20 minutes pour gagner 200 mètres. Il dut s'en contenter. Mais 1700 mètres, c'était parfaitement ridicule. Il faudrait bien se contenter de 1500. Les moteurs chauffaient. Le thermomètre extérieur marquait pourtant moins 8. Une épaisse couche de neige recouvrait le sol. Elle ne devait jamais fondre complètement. Dans un mois environ, l'été de l'Alaska serait terminé et il venait à peine de commencer. Le Junker se mit à bondir sous le vent qui était plus fort dans le couloir. John serra davantage le manche. Les murs rocheux se rapprochaient de plus en plus. Mais qu'avait donc l'avion ? Suivant les caprices du vent, il se comportait comme un cheval de cirque qui improvise sur la piste. L'animal devenait de plus en plus difficile à maîtriser. John sentait ses bras engourdis par l'effort qu'il faisait pour atténuer les secousses. Puis vint la petite caresse. Cette caresse qui donne au col des pluies une si mauvaise réputation chez les pilotes les plus expérimentés. On eût dit qu'une main de géant s'abattait sur le Junker. Il sombrait. Le manche tremblait. Et John se rendit compte tout à coup à quel point il était désemparé. Le seuil du col approchait à toute vitesse. Soudain, une muraille rocheuse noire et fendillée passa à côté de lui. Il se serait cru dans un ascenseur qui dégringolait en vibrant vers le fond et la fin du monde. John était prêt. En quelques secondes, il se ressaisit, rassembla en un point que la frayeur ne pouvait atteindre ses pensées, ses rêves, ses désirs, ses sentiments. Pour la première fois, il osait regarder la mort en face, comme on regarde un ami. Il n'avait pas peur. Il ne crânait pas non plus. Il se sentit envahi par un grand calme, absorbé dans l'immensité de l'univers. Le Junker était à peine à 10 mètres du sol, quand un courant d'air en tourbillon aspira l'avion. John sentit que le lourd appareil était happé vers le ciel. Il aperçut, comme sur un écran, le nouveau paysage qui se déroulait sous ses yeux. Il avait franchi le col, mais il n'en avait pas encore pleinement conscience. Il n'éprouvait aucune joie, aucun soulagement. Le choc le maintenait toujours dans l'antichambre de la mort et il pilotait comme un robot au-dessus de la grande vallée de la Susitna, S-U-S-I-T-N-A. Il ne revint à lui que parce qu'on l'injuriait du terrain d'aviation d'Anchorage, parce qu'il ne répondait pas aux appels et n'avait pas demandé l'autorisation de se poser. Il s'en excusa. On lui indiqua l'angle d'arrivée et la direction du vent. Tout était de nouveau normal. la discipline implacable de l'aviation est un excellent remède pour échapper à un souvenir dramatique. Des ombres sur Kantishna. John ne revint à Kantishna qu'à la nuit. Le soleil resplendissait derrière les plateaux du nord-ouest et la nuit claire, teintée de rose, était féerique. Piloter de nouveau un Junker vide et léger était une sensation bien agréable. John passa très haut au-dessus du col des pluies et une nouvelle rencontre avec cette terrible aspiration lui fut épargnée.
J'avais fini par croire que tu avais pris la fuite, grommela Nels Swanberg quand John descendit de son avion.
J'ai profité de l'occasion pour visiter un peu la ville, dit John, puis je suis allé dans un établissement de bain. Ça m'a pris pas mal de temps.
Tu ne veux pas dire que tu t'es baigné ?
À cette idée, Nels Swanberg frissonna.
Mais si, je suis entré dans une baignoire, remplie jusqu'au bord d'eau fumante, et une sorte d'ours sans poils qui portait un tablier m'a frotté le dos.
Oh, il faudra des litres de café pour te remettre, dit Nels. La cafetière est dans la salle commune. J'ai suspendu ton sac de couchage au-dessus du fourneau. Il ne faut jamais se baigner quand ça n'est pas indispensable. Tôt ou tard, on le paye.
Ils suivirent la rue principale, plus déserte que jamais, et qui semblait absolument irréelle. Le crépuscule rétrécissait toutes les ombres autour des maisons. Les masures branlantes étaient pleines de mystère.
N'est-ce pas, un peu sinistre d'habiter tout seul ici ?
Demanda John en regardant furtivement à droite et à gauche.
Nels Swanberg se rit.
Au contraire, c'est très amusant.
J'ai habité ici à Kantishna plusieurs années, au temps de la grande ruée vers l'or. Je connaissais chaque maison et tous ceux qui l'ont habitée. Si tu savais la vie qu'on a menée dans ces saloons, comme on y a ri, pleuré, gueulé, tiré des coups de fusil. Maintenant, seuls les souvenirs demeurent. Eux, ils ne me font pas de mal. Les morts non plus, du reste. Il n'y a que les vivants qui peuvent nous en vouloir. Viens, John, rentrons prendre le café. Ils étaient arrivés près d'une maison importante, à deux étages, encore un peu plus branlante que les autres. Le bar de Mickey, disait-on sur l'enseigne presque effacée. Ils entrèrent dans une grande pièce déserte. Un bar immense occupait un des murs. Une cuisinière de fortune était installée devant une fenêtre que traversait le tuyau. Une lampe à pétrole, pendue au plafond, répandait une faible lueur clignotante sur le plancher. Tout paraissait de guingois et défraîchi. Même le chambranle de la porte était de travers et les planches du parquet étaient presque toutes incurvées. Quand on marchait, on se serait cru dans le train fantôme d'un parc d'attractions. Une odeur de poussière et de renfermé les saisit à la gorge. Un fusil géant, de ceux dont on se sert pour la chasse à l'ours, était appuyé contre le comptoir. Ce n'était pas un modèle récent. « Permets-moi de te présenter Hampus, H-A-M-P-U-S, la terreur des ours, » dit Nels, et il souleva le fusil en riant.
« Avec celui-là, j'ai expédié plus d'un ours dans les champs du pays des bienheureux. C'est un véritable fusil de sorcier. Mais il faut dire que j'ai dans la crosse une cachette qui contient quelques poils du plus grand ours qui ait jamais été tué. »
Celui qui est empaillé à Fairbanks ?
Exactement. J'ai profité de l'occasion un jour où j'étais venu vendre un sac de poudre d'or. Mais le chef comptable m'a vu juste au moment où je coupais une touffe de poils. Bondissant de son bureau, il a crié d'une voix aiguë :
Que faites-vous là, mon gaillard ? Toute détérioration des biens de la banque est punie par la loi. Police ! Police !
Sais-tu ce que j'ai fait alors ? Eh bien, j'ai levé le nez en prenant un air plus bête encore que d'habitude.
J'ai même souri en disant poliment au chef comptable
« S'il vous plaît, asseyez-vous et attendez votre tour. J'aurai bientôt fini de couper les cheveux de monsieur. C'est pour une barbe ou pour une coupe ?»
John pouffa de rire. Puis brusquement, il se fit grave
et sortit une lettre de sa poche. Il ne faut pas oublier ceci. J'ai été au bureau de la poste. La lettre venait d'arriver. Nell Swanberg prit l'enveloppe d'une main tremblante. Une expression tendue et torturée était revenue sur son visage. Au chercheur d'or, Nell Swanberg, poste restante, Anchorage, Alaska, USA, lisait-on en grandes lettres rondes et enfantines. Dans un coin, un timbre suédois tamponné d'Udevala, U-D-D-E-V-A-2-L-A. Le vieux chercheur d'or sortit de sa ceinture un énorme couteau de chasse et ouvrit l'enveloppe. Il tremblait en dépliant le papier blanc. Une photographie s'en échappa et tomba par terre. « Un instant, fit John, je vais la ramasser. » Mais Nell Swanberg, rapide comme une panthère, le devança. Il paraissait bouleversé. John s'approcha du fourneau et prit son sac de couchage qui était étendu sur un fil de fer. Il valait mieux laisser le vieux tranquille. Cette lettre devait toucher en lui un point très sensible. Nell Swanberg s'était rapproché de la lampe à pétrole en s'asseyant sur le comptoir du bar. Avec ses deux mains, il appuya la lettre contre le bois rugueux, comme s'il avait eu peur qu'elle s'envolât. Il lisait en remuant les lèvres, et des larmes emplissaient les rides qui cernaient ses yeux. La lecture terminée, sa tête tomba en avant, et sa maigre silhouette fut secouée de sanglots. John, un peu hésitant, entoura de son bras les épaules du vieil homme. Les sanglots s'apaisèrent peu à peu, et le vieux leva la tête. Il essuya ses larmes, mais sa voix restait pleine d'une émotion contenue.
C'est stupide, John. Un vieux bonhomme comme moi. Mais c'est comme ça. Et c'est chaque fois la même chose. C'est idiot, tout à fait idiot.
Quelque chose d'embêtant, Nels ?
Ah, non. D'une certaine façon, peut-être. Mais promets-moi de ne pas en rire.
Je te le promets.
Je reçois une lettre par an de ma chère Suède, John, et cela depuis 50 ans. Au commencement, il y en avait même plusieurs par an. C'est de... Non, il est si difficile de prononcer ce mot-là. C'est de ma fiancée, John. Ma fiancée, là-bas. Nous n'avions que 20 ans quand nous nous sommes quittés, et il y a de cela... 56 ans. 56 ans, John. Elle était sur le quai quand je suis parti par le 4-mâts au rat. Ses dernières paroles furent « Je t'attendrai, Nels. » Et elle a tenu parole. Pendant 56 ans, je ne suis pas revenu. Le temps nous file entre les doigts, John. Nous partons, croyant que nous allons conquérir le monde. Puis le monde nous conquiert. Et nous ne retrouvons même plus le chemin de la maison. Tiens, la voici. Il sortit la photo et la posa devant John.
Une bonne petite vieille, toute ridée, avec une coiffe sur la tête, levait son regard vers lui. Elle avait un air de bonté et de gentillesse. Elle était debout, devant une haie de lilas, et tout autour d'elle respirait l'été, la verdure, le bourdonnement des abeilles et le parfum des fleurs. Sur le côté de la photo, on voyait le coin d'une petite maison. La vieille semblait faire une révérence en disant « Sois le bienvenu, Nels. Entre dans ma maison. Je t'ai attendu. » Ils prirent le café en silence. La lampe à pétrole clignotait comme si elle avait sommeil. Ils essayaient de penser à autre chose. Le mal du pays leur serrait la gorge. John pensait à la ferme du Minnesota, aux États-Unis, où habitaient son père et sa mère. C'était l'été là-bas et les champs de blé y ont l'éclat de l'or.
Il n'y a donc pas d'exploitation agricole ici, en Alaska, osa-t-il demander.
Bon, quelques-unes. En bas, dans la vallée de Matanuska, M-A-T-A-N-U-S-K-A, au nord d'Anchorage, on essaye de convaincre le seigle et le blé de sortir de terre. Mais je crois que ça marche mal. L'Alaska n'est pas un pays agricole et ne le sera jamais. Et puis que ferions-nous de lait, de radis, de tomates quand nous avons de l'or et de l'uranium sous nos pieds? Lance-moi le pain, je commence à avoir faim.
Le vent s'était levé. Les murs craquaient et grinçaient. Nell Swanberg tendit l'oreille.
Il y aura de l'orage, grommela-t-il. Pas de décollage demain. Impossible de passer le col des pluies quand on entend ce vent-là. Nous pourrons peut-être tirer un renne sauvage ou un caribou. L'orage les chasse vers la vallée.
John repoussa sa tasse de café et bâilla.
Oh, je crois que je vais me coucher maintenant. Il est tard. Il va faire bientôt jour.
Il étendit son sac de couchage sur la paillasse et se glissa dedans.
Ronfle avec respect, John, dit Nels. Mickey a été abattu d'un coup de revolver exactement à l'endroit où tu es couché. C'était un jour où il avait voulu mettre à la porte un Irlandais ivre qui cherchait la bagarre. Mickey, c'était le propriétaire du saloon. Un rude gaillard, pas froid aux yeux. Il avait été pasteur aux États-Unis avant de changer de monture pour devenir aubergiste. Une histoire d'amour, disaient les gens. J'étais tout à côté, exactement ici, quand le coup est parti. Mickey m'est tombé dans les bras, et il est mort très vite, comme une bougie qu'on souffle. Les seules paroles qu'il ait eu le temps de prononcer furent « J'ai vécu. C'est fini. Adieu, les gars. Seuls les vrais durs meurent comme ça. »
« On meurt de tant de façons différentes, dit John. Je n'ai pas encore fait la guerre, aussi je n'ai pas une grande expérience de ce sujet. » Mais je crois que la mort aussi est un art. Une espèce d'habitude, tout simplement. Les gens qui ont frôlé la mort d'innombrables fois ont répété le rôle, pour ainsi dire, et ils meurent mieux que les autres, avec plus de calme. Tu ne crois pas?
Je ne sais pas, John. Ça dépend beaucoup des souffrances et du temps que ça prend. Je n'ai jamais aimé approfondir l'idée de mon trépas. Je crois qu'il vaut mieux pas. Quand ça arrive, ça arrive.
Bonne nuit, John. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 79, Pilote de l'Alaska, par K.A. Schwarzkopf.